Laudetur Jesus Christus.
Le magazine de Radio Vatican. Présenté par Olivier Bonnel.
La foi est incompatible avec la violence, tels sont les mots du pape ce dimanche lors de la prière de l'Angélus. François a rappelé que suivre le Christ demandait des sacrifices et exigeait de renoncer à ses propres intérêts. Le pape qui a une nouvelle fois tourné ses prières vers l'Égypte pour que la paix revienne dans le pays. L'église australienne se mobilise en faveur des migrants. Une semaine nationale pour les migrants et les réfugiés s'ouvre ce lundi dans le pays. Les évêques appellent à mieux considérer ces personnes vulnérables à 3 semaines des législatives dans le pays. Dans ce magazine, nous vous parlerons aussi des incroyables comestibles, un mouvement destiné à redécouvrir les bienfaits de la terre et l'abondance partagée. Et puis dans le cadre de nos rediffusions estivales, nous entendrons Dominique Ponneau, l'ancien directeur de l'école du Louvre. Soyez les bienvenus dans ce magazine. C'est de nouveau sous un chaud soleil qui baignait la place Saint-Pierre que le pape François récitait ce dimanche la prière de l'Angélus. Le Saint-Père est revenu sur l'évangile de Luc de ce dimanche, où Jésus parle notamment de division. « Pensez-vous que je sois venu apporter la paix sur la terre ? Non, vous dis-je, mais la division. » Des paroles mystérieuses et parfois difficiles à comprendre. Le pape a tenu à expliquer ces paroles en soulignant que suivre le Christ demandait des sacrifices. Antonino Gallofaro.
Comment interpréter ces propos, a demandé le pape. Cela signifie que la foi n'est pas quelque chose de décoratif, d'ornemental. Vivre la foi n'est pas décorer sa vie avec un peu de religion, comme si elle était un gâteau que nous décorerions avec de la crème, a-t-il dit, avec son sens de la métaphore. La foi implique au contraire de choisir Dieu comme critère de la vie. Et Dieu n'est pas le vide, Dieu n'est pas neutre, Dieu est amour et l'amour est positif. Dieu a un visage concret, a précisé le pape, il a un nom, il est miséricorde, fidélité, il est la vie qui se donne à tous. Quand Jésus dit qu'il est venu apporter la division, cela ne veut pas dire qu'il veut diviser les hommes entre eux, mais qu'au contraire, il est notre paix et notre réconciliation, a poursuivi François. Suivre Jésus signifie donc renoncer au mal, a-t-il expliqué, renoncer à l'égoïsme et choisir le bien, la vérité, la justice, même quand cela nous demande des sacrifices et de renoncer à nos propres intérêts. Et cela, nous le savons, implique de la division. Jésus est celui qui nous met face à un choix, vivre pour soi-même ou pour les autres, se faire servir ou servir, obéir à soi-même ou à Dieu. Dans ce sens, Jésus est signe de contradiction, a-t-il dit. Mais ce passage de l'évangile n'autorise pas du tout l'usage de la force pour diffuser la foi, avertit le Saint-Père. C'est justement le contraire, la vraie force du chrétien est la force de la vérité et de l'amour. La foi et la violence sont incompatibles. Le chrétien n'est pas violent mais fort. Cette force est celle de la douceur. Celle de l'amour.
Et le pape François, qui à l'issue de l'Angélus a prié une nouvelle fois pour que la paix revienne en Égypte, ainsi que pour les victimes du naufrage du ferry aux Philippines, qui a fait au moins 34 morts et des dizaines de disparus. Le 34e meeting de Rimini pour l'amitié entre les peuples s'est ouvert ce dimanche et se tiendra jusqu'au 24 août. Organisé chaque année dans la station balnéaire de l'Adriatique, il est à l'initiative du mouvement Communion et Libération, très implanté en Italie. À cette occasion, un message du pape a été lu lors de la messe inaugurant le rassemblement. La mission de l'Église est de servir l'homme en allant le chercher jusque dans les méandres sociaux et spirituels les plus cachés, écrit François dans ce message à destination de l'évêque de Rimini. Le pape qui rappelle également que les chrétiens sont appelés à chercher de nouveaux chemins pour l'évangélisation. Ce meeting pour l'amitié entre les peuples, auquel participent chaque année des milliers de personnes, est une véritable institution en Italie. En témoigne cette année la présence à l'ouverture du chef de l'État, Giorgio Napolitano, et du président du Conseil, Enrico Letta. Chaque année, des personnalités du monde politique, économique ou encore culturel de premier plan y participent. De nombreuses tables rondes, expositions, concerts et temps liturgiques y sont proposés. L'Église australienne se mobilise en faveur des migrants. Les migrants et les réfugiés qui représentent un enjeu éthique et non simplement économique ou de sécurité nationale, c'est ce qu'écrit la Conférence des évêques australiens dans son message en vue de la Semaine nationale pour les migrants et les réfugiés qui s'ouvre ce lundi. Le respect dû aux migrants et aux réfugiés, précise le message, comporte de graves responsabilités. Et c'est pour cette raison que les seuls individus, les paroisses et toutes les entités catholiques doivent lancer des programmes de sensibilisation afin de faire connaître les causes des migrations, peut-on lire dans le message. L'Église australienne plaide pour une plus grande coopération entre les pays d'origine des migrants et les pays d'accueil et invite chaque croyant à s'interroger face aux difficultés et aux espérances des personnes en déplacement. Le sujet de l'immigration est sensible dans le pays à 3 semaines des élections législatives. Le candidat libéral Tony Abbott a promis notamment de stopper les bateaux des demandeurs d'asile aux portes de l'Australie, provoquant la colère et l'inquiétude de nombreuses ONG et des églises. Redécouvrir les bienfaits de la terre et l'abondance partagée, retisser des liens de solidarité où chacun ait sa place, voici des thèmes portés par la doctrine sociale de l'Église. Pourtant, c'est un mouvement non confessionnel que nous vous présentons ce dimanche. Lancé en 2008 dans le nord de l'Angleterre par 2 mères de famille, le mouvement incroyable comestible se répand aujourd'hui en France et dans d'autres pays du monde. Apolitique et inconfessionnel, ce mouvement propose de transformer les espaces verts, qu'ils soient publics ou privés, en potagers géants pour produire de la nourriture à partager gratuitement. Plus qu'une idée passagère, ce projet vise à enclencher un réel changement de société vers l'autosuffisance alimentaire. Retour sur cette entreprise audacieuse avec François Rouillet, le coordinateur d'Incroyables Comestibles en France.
Le principe des Incroyables Comestibles, c'est de créer un monde éthique et solidaire à partir de la nourriture locale, dans la convivialité et l'entraide envers chacun. On transforme nos communes en jardins potagers géants et gratuits pour inviter chacun à produire et consommer localement dans la bienveillance et dans le partage. On a aujourd'hui à peu près 150 communes qui participent au mouvement et l'action est devenue planétaire.
On qualifie ce mouvement, les Incroyables Comestibles, de mouvement anti-crise. Pensez-vous que sa réussite dépend en effet du contexte actuel ?
Aujourd'hui, on vit une crise économique, sociale et financière sans précédent dans notre histoire. On gère en quelque sorte la pénurie. Certaines personnes nous demandent « est-ce que c'est un effet de mode ?» Eh bien, nous répondons « pas du tout ». C'est un changement de fond. Les gens aspirent à une société solidaire, aspirent à des véritables valeurs de partage et puis également d'une nourriture locale de qualité. Tout le monde maintenant voit passer des informations tous les jours sur les problèmes de qualité alimentaire dans ce qu'on mange au quotidien. Il est temps de soigner la terre, de reconnecter les gens, les uns les autres, à la terre nourricière avec une nourriture de qualité.
Justement pour vous, plus qu'une simple idée, ce projet peut être la base d'une nouvelle forme d'organisation sociale ?
C'est tout le cadre de notre vie collective qui change autour de la notion d'abondance partagée. On appelle ça un changement de paradigme. On redécouvre que l'abondance est un état naturel. Vous plantez une graine dans le sol, la terre vous en rend 100 fois plus. Et que se passe-t-il si toute la population se met à planter des fruits et légumes sur son territoire? Et c'est l'expérience que nous faisons en France, en Belgique, en Suisse, au Canada. On redécouvre l'abondance par le partage. On a oublié que la terre nourrissait ses enfants. Il y a 60 ans, à la sortie de la guerre, tous nos territoires étaient déjà en autosuffisance alimentaire. Aujourd'hui, vous avez des centaines de milliers d'euros qui sont dépensés pour les espaces verts. Transformez vos espaces verts en jardins potagers géants et gratuits et vous reviendrez à une alimentation locale de qualité, dans l'entraide, la solidarité et les Incroyables Comestibles ont dit que ça permet de retisser le lien social intergénérationnel. C'est toute la ville qui se reconnecte dans la bienveillance, dans ce partage avec la terre nourricière.
Comment fait-on concrètement pour mettre en place ce projet dans sa ville ?
La première étape, c'est se prendre en photo devant la pancarte de la commune avec le visuel Incroyables Comestibles, nourriture à partager. C'est une démarche citoyenne. L'étape 2, on va mettre la photo sur Internet. L'étape 3, c'est simple, chacun fait sa part devant chez lui. C'est la phrase de Gandhi qui invitait à dire « Soyons le changement que nous voulons voir dans ce monde. » On va planter devant sa boîte aux lettres. L'étape 4, on fait des actions collectives, des partenariats avec des associations de jardiniers, avec des associations d'handicapés, des convergences à faire avec d'autres mouvements. Et l'étape 5, on tente de rallier le conseil municipal. Alors je dirais très volontiers aux auditeurs, réjouissez-vous. Réjouissez-vous parce que là, nous avons une merveilleuse nouvelle. C'est la première fois dans notre histoire qu'on voit un mouvement citoyen autonome, apolitique et non marchand à l'échelle planétaire qui grandit de manière exponentielle. On peut créer un nouveau modèle de développement, un modèle de pacification, un modèle de bienveillance, et c'est vraiment quelque chose de joyeux.
Des propos recueillis par Jeanne Varaldi. Pour la deuxième partie de ce magazine, il est temps de laisser la parole à Sœur Catherine Aubin. Dans le cadre de nos rediffusions estivales, nous vous proposons de réécouter ce dimanche son entretien avec Dominique Ponneau, spécialiste de l'art, agrégé de lettres et ancien directeur de l'École du Louvre. Dominique Ponneau nous fait part de la leçon dont il a appris à voir en nous disant quels sont les vers de poésie et les peintres qui lui font rejoindre la prière.
Dominique Ponneau, nous voyons tous. Certains parmi nous savent voir et je crois, Dominique Ponneau, que c'est votre grâce de savoir voir. Et vous savez retranscrire ce que vous voyez. Est-ce que vous pouvez nous en parler un peu et comment vous pouvez nous aider à mieux voir?
Oh, je pourrais peut-être, ma sœur, commencer par vous dire à qui je dois, entre autres, peut-être une certaine capacité à voir et peut-être à faire voir, puisque vous le dites. Il y a eu plusieurs personnes, et plusieurs occasions, mais plusieurs personnes qui m'ont appris à voir. Mais en particulier, il y a eu une aveugle qui, à l'époque, on avait entre 70 et 80, elle était devenue aveugle subitement pendant la guerre. Elle était en Algérie et il n'y avait pas les médicaments qui auraient pu lui sauver la vue. Donc, quelques jours, elle a perdu la vue, complètement. Donc, moment très dur, qu'elle a vécu, d'ailleurs, elle le disait douloureusement. Comme c'était une femme extrêmement vivace, la joie l'a emportée sur la souffrance, et le jour sur la nuit en elle. Et elle avait été passionnée de peinture. Elle aimait beaucoup, beaucoup la peinture et les arts visuels, comme on ne disait pas encore. Et elle avait un sens extraordinaire de sentir, de percevoir ce qui relevait du monde extérieur. Lorsque nous étions invités, il nous arrivait d'être invités ensemble dans des endroits amicaux, elle me disait « Décris-moi cet intérieur. » Alors, je lui disais, ici, le salon, ici... elle me disait, mais comment est-ce? Décris-moi, où se trouvent les fauteuils, le canapé, et qu'est-ce qu'il y a sur les murs? Alors, je lui disais, elle me forçait toujours à aller plus loin. Et elle prenait mon doigt, plutôt, elle me demandait de prendre le sien, et par exemple, s'il s'agissait d'un tableau, je conduisais son doigt autour du tableau pour qu'elle puisse bien percevoir les dimensions. Et elle me disait, qu'est-ce que cela représente? Je lui disais ce que, à mes yeux, cela représentait, quelles étaient les couleurs, quelles étaient les valeurs, quels étaient les rapports entre tout cela. Et elle n'avait de cesse que je ne me sois mis à préciser les choses. Mais c'est trop vague ce que tu me dis. Sois plus précis. Dis-moi. J'essayais, tout en hésitant, parce qu'on hésite beaucoup en ces matières, j'essayais d'être le moins éloigné possible de la réalité que je percevais. Et du coup, il m'arrivait de la percevoir mieux, peut-être plus intensément, plus précisément, que je ne l'aurais fait si cette amie Denise n'avait pas été là pour me titiller. Quand elle était contente d'une manière d'exprimer les choses, elle m'en félicitait aussi. Mais elle m'aimait beaucoup et la réciproque était bien vraie. Son rôle sur ce point par rapport à moi était beaucoup plus celui de l'interrogation exigeante et aimante que celui de la satisfaction. Mais elle m'a aidé beaucoup. Elle m'a aidé à ne pas me contenter trop facilement de choses vagues. Et ainsi, me semble-t-il, grâce à elle, mon regard s'est aiguisé.
Votre regard s'est aiguisé et aussi votre expression s'est clarifiée.
Oui, exactement. Et je le dois à une amie aveugle.
Étonnant, on dit aussi de vous, Dominique Ponneau, que vous ne dissociez pas la beauté de l'amour.
En effet, en précisant qu'il y a beaucoup de formes d'amour et que l'on peut aimer dans la gloire d'un soleil levant ou d'un soleil couchant, comme on peut aimer aussi dans la nuit et la souffrance. Sans me faire l'apologète de la souffrance, j'oserais dire que parfois la souffrance est une bonne éducatrice, à condition qu'elle ne soit pas trop
envahissante,
qu'elle ne prenne pas toute la place, qu'elle ne rende pas la personne esclave, parce que si c'est le cas, il est vain de parler de salut, de rédemption par la souffrance, et c'est même révoltant. Mais s'il reste un peu d'espace dans la souffrance pour un petit cheminement, un petit ruisseau de joie, alors on est heureux et on partage le bonheur. En effet, vous savez, ce qui me paraît beau en tout cas, même dans des scènes très dures, comme par exemple celle du retable d'Isenheim ou bien du portement de croix de Jérôme Bosch, on peut, si on sait bien regarder, trouver non seulement la joie, mais un partage d'amour. Par exemple, si je ne connais pas d'illustration plus merveilleuse de ce que je viens d'oser avancer que le portement de croix de Jérôme Bosch, qui est une œuvre au premier abord insupportable. Insupportable, c'est toute la hideur de la haine humaine est là, autour du Christ, lequel est au milieu. Il n'a même pas la possibilité de monter au Golgotha, parce que tout le monde en empêcherait. Mais il se trouve que ce Christ, aux yeux clos, a un sourire dont on sent bien qu'il a été torturé et qu'il va l'être encore, on le sait. Ce Christ aux yeux clos a un visage apaisé. Pourquoi ? Parce que l'instant d'avant, une femme, que la tradition appelle Véronique, et une femme dont on dit au demeurant qu'elle était, dans la tradition aussi, l'hémorroïs, l'ancienne hémorroïs, donc la femme, entre guillemets, impure, qui avait touché la frange du manteau du Christ, elle vient de venir purifier le visage tuméfié et plein de sueur du Christ. Elle l'a apaisé d'un regard. Du linge qu'elle a mis sur son visage, mais aussi de son regard aimant. Et le Christ a ouvert les yeux aussi dans cet océan de haine sur non seulement la fraîcheur de ce linge que la femme lui tend, mais sur le caractère aimant de son regard. Et désormais, ils peuvent l'un et l'autre fermer les yeux, ce qu'ils font dans le tableau. On sait bien que l'instant d'avant, ils les ont ouverts et qu'ils sont ensemble à jamais. Or, cela se produit dans une œuvre qui, si vous la regardez, au premier instant est insupportable. Mais ce ruisseau de l'amour, de la beauté dans l'amour, a commencé à couler au moment où ils se sont rencontrés.
Est-ce que je peux vous demander, Dominique Ponneau, quel est, parmi tous les tableaux que vous connaissez, celui qui vous fait prier ?
Ce seraient certaines œuvres de Velázquez. Par exemple, la moire de certaines robes d'infantes. On les touche presque. Je dirais qu'elles sont très sensuelles, dans un sens très pur aussi. Et on s'émerveille de ce que de telles œuvres aient surgi du fond du cœur d'un peintre, de son pinceau, avant qu'il ait peint ses robes d'infantes. Mais il n'y avait rien de ce que je suis en train de dire. Et là, on touche. Je crois, on aborde, sans trop toucher j'espère, le mystère de la création humaine. Avant telle robe d'infante de Velázquez, c'était tout simplement inimaginable. Or, depuis que c'est là, elles expriment un mystère. Elles appartiennent en quelque sorte, à leur façon, à ce mystère de l'incarnation auquel les chrétiens sont si fondamentalement attachés et qui est pour eux la touche de la présence de Dieu. Infiniment au-dessus de ce monde, mais au cœur de ce monde.
Vous avez écrit, Dominique Ponneau, un livre qui s'appelle « Célébration de la gratitude ». Je dois vous dire que quand on vous écoute, on est déjà dans cette célébration de la gratitude. Qu'est-ce que vous avez voulu transmettre dans ce livre ?
Certainement m'a habité le désir d'habiter la grâce qui m'était faite et qui est faite à beaucoup de personnes, de remercier. J'ai voulu non seulement rendre grâce, mais inviter à percevoir que beaucoup plus encore qu'il n'y a lieu de pleurer ou de désespérer, il n'en demeure pas moins que les raisons que l'on a en profondeur, tout simplement parce que l'on vit, parce que même si l'on n'a plus Dieu, on peut quand même avoir un regard et le partager. Il y a lieu de dire merci, même si on ne sait pas à qui on dit merci. Et pour le coup, c'est une célébration. Je pense à l'instant, à la première sentence que l'on voit lorsque l'on arrive au musée municipal de Saint-Denis, qui fut un Carmel, où est morte Madame Louise, la dernière fille de Louis XV, en religion sœur Thérèse de Saint-Augustin. Elle est morte en 1787, elle était entrée au Carmel en 1770. On est accueilli donc par les sentences du Carmel. La première est celle-ci. « Chaque jour du juste est un grand jour de fête, saint et solennel. » Alors cela mérite d'être célébré aussi, je crois.
Ainsi s'achève ce magazine. Merci pour votre fidélité et à très bientôt.